Adicias, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Et si demain sur Occitanie Première qui va bientôt s'appeler Esprit Occitanie, mais c'est toujours la même bande avec à la réalisation Jean-Louis Zacfresse et je le remercie parce que sans réalisation, pas d'émission au micro. Donc qui ça?
Landicella,
oui, bonsoir. Christian Moreto aussi.
Bonsoir.
Mais pas que, puisque nous avons aussi dans le studio deux charmantes personnes. Alors, Chloé Morage, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue chez nous.
Merci.
Et aussi.
Alors, j'ai perdu. Sonia.
Voilà. Sonia Olinger.
Tout à fait, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Et puis nous avons au téléphone aussi, nous avons Sarah Bien-Aimée. Déjà, c'est un joli nom. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous venez de publier Cuisine pas bête pour ma planète. Donc choix alimentaire, mode de cuisson, gestion des déchets, astuces nettoyage, recettes faciles et chez Terre Vivante. Donc un très bon éditeur, bien sûr. Alors donc, vous venez de publier cet ouvrage avec une préface de Fabrice Nicolino, bravo. Au départ, vous n'aviez pas conscience visiblement de l'impact de notre façon de consommer sur le bien-être de notre planète et donc de sa préservation. Aujourd'hui, vous êtes végétarienne. À quel moment de votre vie vous vous êtes posé des questions sur nos comportements et sur leurs conséquences sur l'avenir du vivant ? Et voir sur notre planète Terre.
Eh ben, l'histoire remonte il y a à peu près 15 ans, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, qui s'appelle Lily. Et à cette époque-là, je ne me posais pas encore beaucoup de questions, mais j'ai eu l'occasion de regarder un documentaire qui s'appelle « We Feed the World », qui parlait de l'impact sur l'Amérique du Sud de notre consommation de viande excessive dans les pays occidentaux. Et le documentaire m'a vraiment laissé une trace au fer rouge. Ça m'a fait énormément d'effet. Et je me suis vraiment posé la question à partir de ce moment-là de comment ajuster notamment ma consommation alimentaire pour qu'elle soit moins impactante à la fois d'un point de vue environnemental mais aussi d'un point de vue sociétal.
D'accord. Et vous écrivez aussi dans cet ouvrage, à juste titre d'ailleurs, « Lorsque nous faisons nos courses, rien ne nous informe de l'empreinte écologique de nos achats alimentaires. Si cette information existait, nos habitudes en seraient sans aucun doute bouleversées. L'étiquetage environnemental n'est probablement pas pour tout de suite. Il représente une véritable révolution dans un pays où la viande et le fromage sont encore les piliers de notre identité culinaire, avec en toile de fond une industrie agroalimentaire qui pèse lourd dans l'économie. Alors, en attendant que les pouvoirs publics se préoccupent de la question, chacun de nous peut s'emparer du problème et agir. » Donc, c'est en quelque sorte notre part du colibri, comme le dirait très justement Pierre Rabhi, sachant que, par ailleurs, malheureusement, je dirais que les dirigeants de la FNSEA sont aussi dans ce système-là, contrairement à la Confédération paysanne ou à l'agriculture biologique.
Oui, je ne sais pas si vous me posez une question, mais tout à fait. Hein. Je pense que si les consommateurs, quand ils font leurs courses, avaient des étiquettes lisibles qui leur indiquaient clairement quel est l'impact environnemental de tel paquet de chips, de telle boîte de cassoulet ou même de ce filet de poisson, je pense que ça nous ferait tout drôle et qu'on aurait de façon très très visible la conséquence de nos actes, notamment en termes de consommation. Donc moi, je milite vraiment pour l'étiquetage environnemental. Effectivement, je pense que ce n'est pas près d'arriver parce qu'il y a plein d'intervenants et d'acteurs de la filière qui n'ont pas intérêt à voir arriver cet étiquetage. Mais en attendant, on sait tous que le mieux, c'est quand même de consommer le plus local possible, c'est-à-dire de privilégier les circuits courts, de privilégier l'agriculture biologique et de faire attention à bien consommer de saison. Déjà, quand on fait tout ça, sans étiquetage, on est dans le bon. Après, ben voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est plus ou moins dans la société, plus ou moins informé. et que des gens comme vous et moi, on est très informés et on sait à peu près comment on consomme, mais qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas et qui ont vraiment besoin de cet étiquetage pour que ça aille dans le bon sens.
Vous avez sans doute raison, mais malheureusement, effectivement, il y a des lobbies qui sont très forts et qui pèsent sur les décisions. Et nous parlerons tout à l'heure avec deux invités qui sont dans le studio de l'illettrisme. Ça aussi, savoir lire les étiquettes, même ce qui est caché, c'est important. D'où l'importance aussi de cultiver la culture, dans tous les sens du terme. Et donc, vous écrivez, vous parlez aussi, vous faites référence, bien sûr, aux déchets, mais puisqu'on vous dit que tout va bien, nos poubelles débordent, réglons son compte au gaspillage alimentaire, compostage, rendre à la terre ce qu'elle nous donne, l'obsolescence programmée s'invite en cuisine. Donc, vous développez toute une série de chapitres très intéressants, dont je rappelle le titre d'ailleurs de l'ouvrage, Sarah a bien aimé, Cuisine pas bête pour ma planète, chez Terre vivante. Donc, vous avez fait le tour de tout cela et petit à petit, vous avez pris conscience, vous avez abandonné la viande. Mais alors, si j'abandonne la viande, j'ai plus de protéines?
D'abord, le livre, il ne dit pas qu'il faut devenir tous végétariens demain.
Non, non, non.
Le livre, il dit, ça serait bien que tout le monde se mette à manger moins de viande, par exemple, une fois, deux fois, trois fois par semaine maximum. Et déjà, quand on aura tous fait ça, on aura fait un énorme bond en avant. Après, ce qui est très important d'expliquer au grand public, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une surconsommation flagrante de protéines. On est bien au-delà des seuils recommandés par l'Agence nationale de la santé, l'ANSES. Et qu'on a tous intérêt, déjà, à manger moins de protéines, de quelle qu'elle soit. Donc, manger moins de viande, c'est pas un problème, au contraire. Et manger moins de viande rouge, c'est pas un problème, c'est même très très bon, c'est très conseillé pour la santé. Donc non, on va pas manquer de protéines, mais retournons à mon toi, qui pris la décision d'être complètement végétarienne, mais plutôt par militantisme. Et ben, ça fait 15 ans que je suis végétarienne, je suis en bonne santé, je suis une personne complètement normale, mais je manque pas de protéines, parce que ce qu'on sait rarement, c'est que dans le règne végétal, il y a énormément de protéines, mais ça, on l'a oublié. C'est-à-dire que le règne de la viande est tellement installé, les gens sont tellement persuadés que les protéines de qualité, on les trouve dans la viande, qu'on oublie qu'elles sont partout ailleurs. Donc effectivement, quand on mange très varié, quand on mange des céréales, quand on mange des légumineuses, quand on mange des fruits et des légumes tous les jours, avec une grande variété, on manque absolument de rien. Et ce que je rappelle dans le livre, c'est quand même qu'il y a la moitié de la population indienne qui est strictement végétarienne, et je crois qu'ils vont bien.
Oui, sauf bien sûr à partir du moment où ils sont suffisamment, qu'ils peuvent suffisamment s'alimenter. Oui, j'ai été deux fois en Inde, effectivement, et je me suis très bien passé de la viande sans souci. Et d'ailleurs, vous donnez des informations et tout un tableau là, qui est publié dans votre ouvrage. Pour produire un kilo de bœuf, il faut 15 400 litres d'eau. Pour produire un kilo de cochon, il faut 6 000 litres d'eau. Pour un kilo de poulet, 4 300 litres. Pour le fromage, 3 200, ça baisse. Pour le maïs, 1 200. Et pour la tomate, 214 litres. Donc ça fait une différence aussi.
C'est des chiffres très impressionnants et il y a d'ailleurs, je me permets de l'indiquer, il y a des scientifiques qui, à la lecture de cette étude, tiquent un peu parce que, en fait, les proportions d'eau qui sont indiquées prennent la totalité de l'eau impliquée dans le processus, y compris par exemple par phénomène d'évaporation des pâtures. Mais en fait, ce qui est important, c'est non pas les chiffres tels qu'on les présente, c'est la proportion. C'est de voir la différence incroyable entre un kilo de céréales, par exemple, ou même un kilo de soja et un kilo de bœuf. On est sur une telle disproportion qu'on a vraiment, vraiment, il est urgent de se questionner sur la façon dont on obtient aujourd'hui nos protéines. Et ce tableau, il est très parlant, il est très marquant, et c'est vrai que quand on pense qu'un kilo de bœuf nécessite près de 15 000 litres d'eau, on trouve ça ahurissant et ça frappe les esprits.
Alors, Après, effectivement, et qui plus est, l'élevage intensif, il est clair qu'il faut diminuer notre consommation de viande, voire de poisson, mais l'élevage intensif, ça fait que aussi, et plus les agrocarburants font qu'il y a une déforestation, qu'on met après, qu'on plante des palmiers pour l'huile de palme, que l'on détruit la forêt pour étendre justement les élevages. Donc tout ça, ça a des conséquences. Donc la manière dont nous allons consommer, effectivement, ça va avoir des conséquences en amont sur notre environnement et sur le devenir de l'espèce humaine aussi, hein, au final.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est important de rappeler que notre niveau de consommation de viande est tel aujourd'hui qu'on contribue à 80% à la déforestation des forêts amazoniennes. 80%, c'est juste dingue. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur place, beaucoup des populations locales perdent leur outil de travail, c'est-à-dire la terre, parce qu'elles sont expulsées du fait qu'on ait toujours besoin de plus de pâturage, toujours plus besoin de terres agricoles pour faire pousser le soja qui va nourrir le bétail. Et on est dans une spirale infernale. C'est pour ça que je continue à dire que même si on ne devient pas végétarien, ce qui n'est pas un but en soi, il faut vraiment tous qu'on prenne conscience qu'il est urgent de manger moins de viande et que si on ne peut pas s'en passer, si on a besoin de manger régulièrement de la viande, il faut encourager les gens à manger de la volaille, qui a un impact environnemental bien moindre que la viande rouge, et encore mieux de la volaille locale.
D'accord, je vais vous passer mon confrère Landy Sella. Je vois qu'il a toute une liste de questions, donc je vais lui passer le téléphone, et donc nous allons changer de voix.
Oui, bonjour Sarah. Je vous ai écouté attentivement, j'ai vu un petit peu votre bouquin. J'ai bien compris dans votre discours que la cuisine, c'était une pièce de la maison dont l'impact environnemental est plus important, donc on y a les dépenses énergétiques et les produits ménagers. J'ai vu un petit peu en fait sur votre site que vous avez commencé depuis 2015, vous avez sorti le livre de Croque-Pousse, Cuisson alternative, je craque pour le cru. Cuisine pas bête pour ma planète, donc le dernier livre. Chez vous, qui a déclenché l'idée pour sortir des livres? C'est l'écologie ou c'est votre passion pour la cuisine?
Qu'est-ce qui m'a motivée pour faire un livre? C'est ça
Oui,
que
en
c'est
fait,
pas
tous ces livres, parce que je vois en fait déjà, je peux noter quatre livres. Peut-être vous
Oui,
avez plus.
alors le premier livre, il n'est pas arrivé, c'était pas forcément une motivation personnelle, c'était vraiment la demande d'un éditeur à l'époque, Gallimard. Et voilà, je ne peux pas dire que j'avais une envie incontournable de publier. Par
D'accord.
contre, une fois que j'ai eu publié, je me suis rendu compte que vraiment c'était un outil de dialogue avec les lecteurs qui était incroyable. Les livres ont quand même un impact très important. Et petit à petit, j'ai rencontré l'éditeur Terre Vivante qui a vraiment compté énormément dans ma vie parce que les livres de Terre Vivante nous ont vraiment accompagnés dans nos changements de vie. Ils nous ont aidés et on est vraiment très très reconnaissant à cette maison d'édition. Et du coup, quand Terre Vivante m'a proposé de continuer avec eux, j'ai vraiment, je crois que à la fois j'ai été très fière, mais j'ai aussi compris que j'allais vraiment pouvoir toucher un lectorat important. Et après, c'est vrai que dernièrement, mes livres ont changé, puisque au départ, je publiais essentiellement des recettes de cuisine. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être plus dans le témoignage, c'est-à-dire témoigner du fait qu'une famille lambda, avec des enfants qui vit à la campagne, essaie de diminuer son impact environnemental, n'y arrive pas toujours, fait des essais, pédale dans la semoule, recommence, arrête. Et puis finalement, on s'est dit que témoigner de nos propres aventures, de nos difficultés, de nos succès, c'était la meilleure façon de convaincre ceux qui allaient le lire, de se dire, bon, nous, on est à peu près pareil, et si eux, ils sont arrivés sur quelques points, nous, on devrait y arriver aussi. Voilà.
D'accord. Notre prise de conscience aujourd'hui et la solution que nous adoptons en famille, ça s'arrête vraiment quand on quitte notre domicile et quand on arrive, nous, par exemple, au travail ou à l'école, il y a un autre mode de vie qui se présente à nous et j'ai une dent contre les cantines.
Oui.
Pas pour toutes, en fait, mais la plupart. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose en même temps la question, est-ce qu'aujourd'hui, est-il faisable la mise en place d'un repas alternatif dans les cantines scolaires ou d'entreprises? Et comment on peut faire?
Eh bien, figurez-vous que cette question qui a longtemps paru complètement à côté de la plaque, saugrenue, aujourd'hui est complètement d'actualité. Vous le savez peut-être, mais un projet de loi est en préparation suite aux états généraux de l'alimentation. Ce projet de loi agricole va intégrer des amendements autour de la restauration collective. Est-ce que ces amendements vont passer ou pas? Ce serait le ministère du Parlement et du Sénat. Mais parmi ces amendements, il y a la demande d'un réel changement dans les cantines de la restauration collective et notamment dans les cantines scolaires, puisque c'est vrai, c'est dramatique. On y sert beaucoup trop de protéines. L'équilibre alimentaire n'est pas respecté. Il y a énormément de gaspillage dû au nombre. Et il y a énormément. La restauration collective, c'est un vivier. C'est un vivier potentiel de 3 milliards de repas par an. Si on arrive à activer le levier de la restauration collective, on va faire un énorme progrès en termes d'impact environnemental de notre alimentation. Donc vous avez tout à fait raison, quand on sort de chez soi, il faut continuer à être vigilant et à limiter. Et ce qu'on fait chez soi, il faut le faire à la cantine, il faut le faire quand on est en vacances, il faut essayer de le faire partout. L'écologie ne s'arrête pas à la porte de sa maison.
Oui, et quand vous parlez des déchets, je regardais un petit peu les chiffres, c'est nous jetons en moyenne 20 à 30 kilos par an et par personne.
Tout à fait.
Et donc ça se limite à un budget à peu près de plus de 750 euros pour une petite famille de 4 personnes. C'est énorme.
Tout à fait. Et ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que c'est vraiment ce que les foyers jettent, ce chiffre, ce n'est pas le gaspillage dû à la grande distribution et ou la restauration collective. C'est 30 à 40 kilos par personne et par an, c'est nous, c'est les familles. Et bien sûr, on peut pointer du doigt la restauration et la grande distribution, mais avant de le faire, il faut vraiment qu'on balaye devant la porte de notre frigo, parce que les foyers ont un énorme effort à faire en termes de gaspillage.
Qu'en pensez-vous quand vous ouvrez la porte de frigo ou quand vous êtes invité chez des amis?
C'est toujours un moment où on prend des choses, c'est toujours un moment où je constate qu'on est sur des modes similaires, soit on est sur des modes de consommation toujours différents, mais c'est toujours le moment où on ouvre le frigidaire, où on cuisine ensemble, où on mange ensemble, c'est toujours un moment de dialogue, c'est toujours un moment d'échange. Et moi, je me garde bien de juger, et d'autre part, je me garde bien de faire du prosélytisme, à part dans mes bouquins. Quand je suis chez les gens, j'essaie vraiment de témoigner de ce que je fais et de ce que je suis. Par contre, j'évite de donner des conseils, j'évite d'être donneuse de leçons, parce que ça me paraît complètement contre-productif. Et de toute façon, je pense qu'on a toujours à apprendre des autres, même quand ils ne sont pas dans les mêmes fonctionnements que vous.
Même si vous faites la formation professionnelle, j'ai vu un petit peu sur votre site, vous faites du consulting aussi?
Oui, tout à fait. Je travaille énormément avec l'Association végétarienne de France, qui milite notamment en ce moment pour l'instauration des repas végétariens dans les cantines de la restauration collective. Et j'accompagne des gens en reconversion professionnelle, notamment des restaurateurs qui veulent végétaliser leurs pratiques, qui veulent introduire des repas végétariens. Donc j'accompagne des personnes et des structures qui sont sur le chemin de moins de viande, moins de produits d'origine animale. C'est mon métier.
D'accord. Si on peut résumer votre cuisine en deux mots.
C'est une cuisine, je dirais, un peu folle. Toujours en lien avec les saisons, avec la couleur. C'est une cuisine qui intègre les plantes sauvages. Et puis, c'est une cuisine de la bonne humeur. C'est-à-dire que quand on passe à table à la maison, c'est vraiment pas un moment où on se serre la ceinture et on fait tous la tête. C'est vraiment un moment où on partage, on rigole, on parle. Chacun mange ce qu'il a envie. Chacun a le droit de ne pas manger également. C'est un moment libre et puis un moment, voilà, je crois, d'écoute et de respect mutuel, même quand on n'est pas végétarien.
Est-ce qu'il y a, eu une influence dans votre amour pour la planète et pour la cuisine ? Je voulais parler aussi d'un livre que vous aimez bien, en cuisine avec Alain Passard.
Oui, alors Alain Passard, c'est pas quelqu'un qui m'a influencé, parce qu'à l'époque où j'ai changé les choses dans, dans mon alimentation, je le connaissais pas encore, et je pense que lui-même n'avait pas, n'était pas encore passé vers à une pratique végétale. Je dois dire que la, une des personnes qui m'a le plus influencé dans le changement de mon mode de vie, de mon mode alimentaire, c'est quelqu'un qui s'appelle François Couplan, qui est un ethnobotaniste français, qui a énormément œuvré pour la reconnaissance et la préservation des plantes sauvages comestibles. C'est vraiment quelqu'un qui m'a fait voir le monde végétal d'un œil complètement différent. J'ai vraiment dévoré ses livres, je suis allée en formation avec lui, c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué et qui a vraiment aussi marqué un nouveau départ dans la façon de concevoir mon rapport au règne vivant. Et je lui en suis profondément reconnaissante.
Je vous remercie, Sarah, et je vous passe Christian, je ne sais pas s'il a quelque chose à ajouter ou une question. Oui. Merci beaucoup, passez une bonne soirée.
Oui, non, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle donc le titre du livre, Sarah Bien-Aimée, donc chez Terre Vivante, cuisine pas bête pour ma planète, avec aussi en fin d'ouvrage plein de bonnes recettes.
Merci infiniment pour votre invitation et ce temps de parole.
Mais je vous en prie, c'est aussi l'objectif de « Et si demain, nous protégions la planète en consommant autrement ?» Ça pourrait être ça le titre de la première partie de l'émission à laquelle vous avez participé sur Occitanie Première, qui va s'appeler très prochainement « Esprit Occitanie ». Merci beaucoup. Et dès qu'il y aura le podcast en ligne, je vous ferai signe. Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir. Alors j'en profite pour saluer quand même les fidèles aussi de l'émission et remercier aussi Céline Boussier, donc, qui est lanceuse d'alerte et qui a accepté de marrainer, parrainer, comme elle voudra, l'émission Ici Demain et l'émission Traversée le vendredi matin entre 10h et midi, puisqu'il y a deux émissions. Et je salue au passage les fidèles de l'émission, Véronique Labre, par exemple, Patrick Boyer, Marianne Dupont, Daniel Lafont. Merci Caroline, merci aussi pour le boulot que tu fais concernant tout notre site et notre Facebook. Je salue au passage Anna Carbonel, Fanny et Grégoire Dozoville et notre ami aussi Stéphane Boistard. L'indicatif, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, est signé de Damien Moreto. Voilà, j'ai tout dit ou presque. Et donc, tiens, nous allons marquer une pause en chanson avec quelqu'un que nous aimons beaucoup, avec Landy, qui s'appelle Lise Martin, qui est toulousaine aujourd'hui. Et c'est tant mieux, hein, nous la gardons, il n'y a pas de souci, ne t'en vas plus, Lise, tu restes avec nous. Et ça s'appelle Tant pis. À tout de suite.
Tant pis, on viendra pas me consoler. C'est hier que j'aurais dû pleurer. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Et puis demain, tout ira bien. Quelques regrets, mais pas de remords. De toute façon, je garde encore mes grands espoirs et mes souvenirs comme seul bagage pour l'avenir. J'avance à pas, hésitant quelquefois. On m'a dit ne t'arrête pas. Je continue, suivant d'improbables étoiles, même si tomber fait toujours mal. Hier, le vent du nord sur les talons, je traversais les saisons. Aujourd'hui, je reste ici. Et puis demain, on verra bien. Si je m'égare encore parfois sur mon chemin, le soleil chaque jour revient pour échauffer. suis née au coin d'une rue. Aujourd'hui, j'ai grandi. Demain déjà, je ne serai plus là. Mais tant pis, pas besoin d'être consolée. Je crois qu'hier, j'aurais pleuré, mais aujourd'hui, je n'ai plus envie, puisque demain, tout ira bien, puisque demain, tout sera bien.
Bonsoir, Adicias, vous êtes bien à l'écoute de l'émission. Et si demain l'illettrisme n'existait plus, ce serait bien peut-être pour permettre à toute citoyenne et à tout citoyen de s'informer, de lire et de lire notamment Cuisine pas bête pour ma planète de Sarah bien-aimée parue chez Terre Vivante et bien d'autres ouvrages. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner quand même une info, c'est que ce soir, mardi 13 mars, c'est la clôture du festival concernant la Palestine. Et c'est un documentaire de Carole Mansour, La Palestine de fil en aiguille. Et c'est chez nos amis de l'American Cosmographe, un très bon cinéma où il n'y a pas de maïs OGM de distribuer puisqu'il n'y a pas de pop-corn. Voilà, et que donc vous allez au cinéma pour regarder un film et pas pour mâchouiller. Ça, c'est dit. Au passage, je salue aussi nos amis du théâtre du Pavé et j'ai 4 places 2x2 à offrir. Enfin, c'est le théâtre du Pavé qui vous l'offre. Donc, c'est pour le vendredi 23 février. Vous pouvez m'appeler au 06 76 90 66 09. Non, mars, pardon. Sinon, oui, si je dis février, c'est passé. Merci. Je voulais revenir un petit peu en arrière parce que le temps file trop vite.
On suit.
Voilà, merci. Voilà, c'était finalement un piège. Je salue au passage aussi nos amis de TV Sol, Actualité sur Internet. Et donc, nous avons 2 invités dans le studio. Chloé Morage, bonsoir. Donc, coordinatrice du service de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Quesaco, à quel bestio.
C'est un grand titre. Bon, on a plusieurs actions. Donc, le service illettrisme de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme, c'est un service ressource pour les associations toulousaines, mais aussi sur la région Occitanie maintenant. Et bon, même si on est beaucoup plus implanté sur l'ex-région Midi-Pyrénées, le service donc est porté par une association qui s'appelle l'Union Cépierre Robert Monnier, qui est donc basée à Toulouse, mais qui a aussi plusieurs actions sur la région. Peut-être dans un premier temps, on va laisser Sonia Olinger présenter l'association et puis après, on reviendra sur le service.
Oui,
et sur les actions.
Sur le service et sur les actions, notamment le pied à l'encrier.
Exactement.
Donc, on met le pied sur l'encrier et l'encre jaillit et l'écriture avec.
C'est ça.
Donc, Sonia.
Oui, donc l'Union Cépierre Robert Monnier est une association loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général. Elle œuvre depuis plus de 70 ans sur le territoire de la métropole de Toulouse et dans la région Occitanie, auprès de différents publics, des publics en situation ou en risque de fragilité, dans le champ social, des personnes en situation de handicap ou qui ont des difficultés de santé, une absence de logement ou d'emploi, un besoin de formation ou d'éducation, ainsi qu'un déracinement lié à l'exil. L'association en fait, compte aujourd'hui 208 salariés. Il y a une cinquantaine de bénévoles qui donc, nous appuient. Et en 2017, nous avons pu donc, accompagner, former, orienter plus de 8000 personnes. Donc les champs dans lesquels nous intervenons un peu plus précisément, donc c'est des personnes donc en recherche d'emploi ou de formation. Donc nous leur proposons des actions pour leur permettre de s'orienter et de se qualifier dans ces domaines-là, les mettre en relation avec des entreprises et d'ailleurs aider également les entreprises à intégrer les personnes en poste. Également une spécialisation auprès des personnes en situation de handicap qui justement ne peuvent plus exercer leur ancien métier et ont besoin de se reconvertir. lire. Donc là également, nous proposons d'accompagner les employeurs également pour une meilleure intégration dans l'emploi et un maintien dans l'emploi des personnes qui pourraient avoir un handicap qui évolue. Nous avons également des actions de logement et d'hébergement. Là, on est donc plutôt sur des personnes qui ont eu des parcours de vie qui les ont amenés à la rue, par exemple. Et donc, voilà, nous essayons de les ramener dans des... alors, de les héberger soit transitoirement et ensuite d'accéder à un logement autonome. Et le dernier axe qui est le nôtre, c'est la santé et la qualité de vie, puisqu'en fait, au travers de toutes les actions que nous menons, nous essayons donc de développer en partenariat avec différentes associations et des institutions hein, telles que le CHU, des actions donc, qui permettent de développer des dispositifs qui pourraient rendre service et qui n'existent pas encore, mais voilà, qui permettent de prendre en compte la dimension santé qui est présente dans les différents publics que nous accompagnons. Voilà, et donc l'association, peut-être pour terminer, en fait, nous avons des financements essentiellement publics, mais également nous pouvons avoir après des entreprises voilà, qui nous demandent d'intervenir en leur sein. Donc voilà, on a des financements également d'entreprises, même si c'est un peu moindre proportionnellement.
Alors, ces financements publics, ils viennent de quels horizons ? La région, le département, la ville de Toulouse, la métropole ?
Alors, oui, effectivement, pour les actions plutôt d'emploi et formation, c'est en effet la région, le conseil départemental, la ville de Toulouse et la métropole, la GFIP également.
Pas trop loin du micro, s'il
vous
plaît.
Oui, pardon. Et pour les actions d'hébergement... Et de logement, on est également sur des financements de la DRJ-SCS, de la préfecture de l'État. Voilà, en fait, c'est en fonction des compétences des différentes institutions que nous sommes financés.
Et donc, ça, c'est juste pour embêter notre ami Macron. Est-ce qu'il y avait des contrats aidés dans l'association ou pas ?
Alors, nous en avons eu, effectivement, et nous n'en avons plus.
Voilà. C'est le problème, alors, que les associations sont très utiles dans la vie. S'il n'y avait pas des associations en France, eh bien, la galère serait encore beaucoup plus conséquente. Landy, tu connais bien cette structure. En tous les cas, tu l'as croisée quelque part. Et donc, tu as des questions à poser.
Pour la structure, non, parce que j'étais, en fait, j'ai trouvé un très bon accueil dans cette structure. Je faisais partie d'un de ces publics, en fait, que vous aidez, que vous. C'était par rapport à l'emploi. En cette époque, moi, c'était pour l'hébergement. Mais en fait, je tiens à féliciter en fait le travail de tous ces travailleurs de cette association, parce que avec ces financements qui sont en fait à compte-goutte, quel que soit le gouvernement, hein, parce que tu cites notre ami. Macron, mais il y en a d'autres avant lui qui n'ont pas fait beaucoup mieux que lui. Et donc, les personnes qu'on a aujourd'hui dans le studio peuvent nous prouver aussi, parce qu'il y a toujours, je ne sais pas aujourd'hui l'état actuel de nombre de vos salariés, en fait. Aujourd'hui, on voit de moins en moins de personnes, et la précarité aujourd'hui, et qui aujourd'hui tout le monde est en difficulté.
Effectivement, donc on est une association assez importante avec 208 salariés, et on a des financements, comme vous le disiez, qui ne sont pas pérennes du tout dans le temps. Donc c'est vrai que chaque année, on n'a pas toujours des facilités, on va dire, à renouveler les budgets. Mais par contre, effectivement, on a de plus en plus de personnes qui ont besoin en fait, hein, d'être aidées, alors, dans différents domaines. Et c'est vrai où c'est là où c'est un peu contradictoire, en effet. Donc on essaye d'optimiser au maximum ce qu'on peut apporter, mais voilà... C'est vrai qu'à un moment, on est un peu contraint par les financements que l'on peut avoir. Donc c'est d'où l'intérêt aussi quand même voilà, d'avoir des bénévoles aussi avec nous qui nous aident. Mais voilà, on ne peut pas faire plus. Je crois qu'on est au maximum.
C'est vrai qu'on le voit hein, d'année en année, les contraintes financières font qu'on travaille pour des financements qui restent les mêmes, voire diminuent. Donc c'est toujours trouver des solutions parce que les besoins sont toujours là et de plus en plus. de plus en plus. Donc, ça reste compliqué.
D'ailleurs, les institutions qui nous financent, bien souvent, nous le disent, en fait, s'il y a des stagnations ou éventuellement des diminutions de budget, ce n'est pas forcément, d'ailleurs, de leur volonté. C'est qu'eux-mêmes ont des financements en baisse et donc il faut aussi qu'ils puissent allouer les ressources au mieux possible sur l'ensemble du territoire et des associations. Donc, c'est un cercle un peu vicieux.
Je propose qu'ils embauchent des personnes qui sont censées aller récupérer tout ce qui est dans les paradis fiscaux, là, parce qu'il y a quelques milliards qui se promènent, et qu'au lieu de supprimer l'impôt sur la fortune pour ceux qui spéculent en bourse et qui ont les moyens, peut-être que rediriger ça au niveau du social, du culturel et de l'écologie, ce serait mieux.
Pourquoi pas?
Je vous ai coupé la parole. Je voulais rajouter.
Non, parce qu'il y a aussi les financements privés qu'on essaye de trouver. Donc, on a aussi des mécènes, du mécénat qui nous soutient d'année en année. Ça, c'est vrai que c'est plus confortable du coup. Il faut toujours faire la recherche de mécénat et entretenir des réseaux. Mais voilà, il y a ça aussi, cette ouverture-là, qu'on a cette soupape, on va dire, qu'on peut avoir. Voilà.
En termes d'association, sur Toulouse, il y a d'autres associations qui ont le même public que vous. Aujourd'hui, comment vous êtes situé, vous, par rapport à ces associations qui existent sur Toulouse ?
Alors, on travaille en partenariat énormément, sur tous les dispositifs dans lesquels nous sommes. Effectivement, le but, et c'est aussi la volonté des financeurs, mais ce qui est normal, c'est qu'on puisse s'articuler au mieux. Donc effectivement, il y a tellement de publics qui ont besoin d'un accompagnement que c'est normal d'essayer de s'entraider entre associations. Donc effectivement, historiquement, puisqu'on est quand même un acteur assez ancien, mais on a noué des liens assez proches avec beaucoup d'associations. Et voilà, on essaye d'échanger sur les parcours et d'essayer d'optimiser au maximum. Et effectivement, quelquefois, il peut y avoir une personne qui passe par plusieurs associations et parce qu'à un moment donné, c'est plus pertinent qu'elle bénéficie d'un accompagnement plus adapté par une autre structure.
Donc, pour illustrer dans le service, pour le service illettrisme, nous faisons partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Alpha Fleu Toulouse. Ce sont donc plusieurs associations qui font des cours de français pour les migrants, pour les demandeurs d'asile ou pour toute personne qui a besoin de remettre un petit peu de remettre à niveau les savoirs de base. Donc ces associations-là, on s'est regroupés en collectif pour aussi mieux se connaître, pour pouvoir mieux orienter, parce que bien souvent, les cours de français sont complets et très très vite. Donc du coup, on se retrouve avec beaucoup beaucoup de monde qui sont en demande de cours, de formation de français et qui ne peuvent pas en bénéficier. Donc voilà, c'est mieux se connaître pour mieux orienter et puis faire remonter aussi à nos partenaires, à nos financeurs, la situation actuelle aujourd'hui qui grandit de plus en plus, à tel point aussi qu'on a beaucoup de plus en plus d'associations, d'initiatives locales qui se montent par des bénévoles et uniquement bénévoles. Aucun salarié sont au niveau de l'initiative locale. Ce sont que des bénévoles qui montent ces actions-là et qui sont un peu isolés dans leur action. Ils veulent bien faire, mais bon, on gère de l'humain, on gère aussi l'apprentissage du français. Est-ce qu'on les laisse comme ça? Enfin voilà, donc on essaye de se regrouper, de s'organiser, de s'informer, de se former et de faire remonter tout ça.
Alors, dans les initiatives, il y a justement cette fameuse action qui date de quelques années déjà, qui est le pied à l'encrier. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, le pied à l'encrier. Alors, effectivement, il existe maintenant, ça fait 18 ans que cette action...
Donc, elle est majeure.
Oui, on peut dire ça. Elle a été créée donc par le CLAP Midi-Pyrénées, qui était une association qui accompagnait les associations d'alphabétisation initialement, qui a fermé ses portes fin 2015 et qui a transféré l'activité à l'Union Saint-Pierre-Robert-Mounier pour qu'elle perdure. Pour qu'elle continue. Voilà. Donc, du coup, l'UCRM a permis justement cette continuité-là et cette pérennité de l'action. Le pied à l'encrier, qu'est-ce que c'est ? Une action donc de valorisation des apprentissages de la langue française. On propose en début d'année scolaire
aux associations qui sont intéressées de s'engager sur une année pour travailler l'écrit de manière ludique, à travers des ateliers d'écriture ludique, comment jouer avec les sons, avec les lettres, avec les mots, avec la graphie, comment apprendre de manière un peu différente, en s'amusant. Voilà, pour éviter aussi un peu les difficultés que les apprenants ont pu rencontrer dans leur vie, hein, et peut-être des parcours de scolarité compliqués, des échecs par rapport à l'apprentissage, enfin, des difficultés dans la langue française. Donc voilà, l'objectif, c'est de ne pas reproduire ce qu'on a fait ou ce qu'on a pu connaître à l'école, mais bien de s'amuser avec la langue française pour après écrire.
Comment on peut identifier en fait ce public qui a des difficultés par rapport à la langue, parce que c'est compliqué. En fait, on va pas marquer sur le front, je sais pas lire, je sais pas écrire.
Tout à fait. Alors, il y a trois publics principaux, et alors deux publics où c'est relativement simple à identifier parce que la langue maternelle n'est pas le français. Donc là, on va voir les publics FLE, on va dire français langue étrangère, hein, qui arrivent en France, qui ne savent pas parler français, mais qui ont suivi une scolarité tout à fait normale ou quasi normale dans leur pays d'origine. Donc là, qui vont devoir transférer leurs acquis en français. On va avoir les personnes en alphabétisation, comme on dit, donc là, qui ont suivi une scolarité dans leur langue maternelle plutôt compliquée. Donc, peu ou pas scolarisée. Et donc là, il y a un travail à faire avec elles. Et là, c'est important de positionner, d'identifier justement quels sont les savoirs de base qu'il a acquis, même dans sa langue maternelle. Est-ce qu'il a écrit dans sa langue maternelle? Est-ce qu'il a appris à compter, à se repérer? Enfin voilà, des savoirs de base classiques. Et enfin, les personnes en situation d'illettrisme. Donc là, ce sont des Français qui ont été scolarisés en France et qui, arrivés à un moment donné dans leur vie, n'ayant pas pratiqué la lecture, l'écriture, se retrouvent en situation d'illettrisme, ont oublié l'écrit ou la lecture ou compter parce qu'ils ne le pratiquent pas et que la maîtrise initiale n'a pas été consolidée, les acquis n'ont pas été consolidés lors de la scolarité.
Et donc le pied à l'encrier, c'est aussi l'objectif. Après, il y a une recherche de bénévoles, je crois, pour le jury. Donc tu pourras donner aussi les contacts, comment faire éventuellement, si des auditrices et des auditeurs de l'émission Ici Demain sont intéressés. Et puis, publication après dans le recueil.
Il y a ces ateliers d'écriture hein, qui durent à peu près d'octobre jusqu'à mars. Donc là, ils viennent d'être terminés, là, cette édition, l'édition actuelle. J'ai oublié de préciser, tous les ans, nous lançons le Pied à l'Encrier, une nouvelle édition avec une thématique d'écriture, alors qui n'est pas obligatoire pour les apprenants parce que l'objectif avant tout hein, dans le Pied à l'Encrier, comme vous l'avez compris, c'est d'écrire. Mais en tout cas, pour les structures qui se lancent dans l'animation d'ateliers d'écriture, nous leur proposons une formation début d'année sur une sensibilisation sur l'animation d'ateliers d'écriture autour de la thématique. Cette année, elle s'intitule « Et si ça coûtait les yeux de la terre ?» Donc on est vraiment
dans le thème,
effectivement. Et donc ces futurs animateurs se lancent dans les ateliers d'écriture. Une fois qu'ils ont terminé de faire écrire ces textes à leurs apprenants, donc là on a les personnes, tous les publics que je vous ai cités auparavant, ils me rendent les textes via un logiciel internet et je vais proposer donc une après-midi de lecture à un comité de lecture qui va attribuer des coups de cœur au texte qui émeut le plus. Donc on est bien sur du subjectif, hein, c'est du feeling. C'est une majorité de personnes qui va donc attribuer un coup de cœur ou non au texte. Donc il y a cette année on a 650 participants, 550 textes écrits. Alors, ça peut être des tout petits textes, hein, très courts, parce que parfois, on a selon les niveaux, bien sûr, des personnes, hein, on a des tout petits textes, comme on peut avoir des textes plus élaborés.
C'est le nombre de participants qui compte, hein, 650 personnes, c'est déjà la démarche, elle est,
C'est une grosse action. On est sur une action, je vous l'ai dit, ex-Midi-Pyrénées, donc on est sur la région quand même, sur l'action. Languedoc-Roussillon commence les structures de Languedoc-Roussillon commencent à connaître un peu le pied à l'encrier et à vouloir y participer. Donc ça a sûrement tendance à grossir d'année en année.
Oui, parce que même dans Languedoc-Roussillon, il y a pas mal de mouvements, des événements par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ça date depuis 18 ans, en fait, votre initiative, c'est que le pouvoir aussi a eu conscience de ces problèmes-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un nouvel homme fort de ce gouvernement qui est chargé de la lutte contre l'illettrisme, c'est Monsieur Thierry Lepan.
Tout à fait.
Qui est nommé
directeur
de l'agence. Il y a même une mission régionale à la préfecture de Toulouse. Donc il y a quelqu'un qui est chargé, justement. Est-ce que vous avez un lien avec cette agence nationale et comment travaillez-vous, en fait, avec...
L'agence, pour l'instant, non. Avec M. Lepan, on a entendu effectivement cette ouverture. Et puis les orientations de cette agence-là, pour l'instant, il n'y a pas encore de mise en place concrète d'accompagnement de structures comme la nôtre, par exemple. Mais je veille au grain, bien sûr. Après, on est en étroite collaboration avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, la NLCI, qui est une autre agence. Enfin, on n'a pas encore trouvé l'articulation entre ces deux agences-là, hein, parce que c'est en création. Donc la NLCI, elle qui existe depuis pas mal d'années déjà, on est identifié comme un acteur de lutte contre l'illettrisme, avec aussi un label, label de l'agence. Donc oui, on est identifié. Voilà.
Et aujourd'hui, le public, en fait, les participants, c'est les Français ou c'est les étrangers? Comment le profil vous avez?
En majorité, on a des étrangers. En majorité. Après, on a aussi... c'est un public qui va de 6 jusqu'à 99 ans. Hein. Donc, on a aussi des enfants qui sont en difficulté scolaire, qui vont se retrouver dans des dispositifs d'accompagnement à la scolarité, par exemple.
Ça n'existait pas pour les jeunes
Tout à fait. Initialement, il y a quelques années, il y avait un pied à l'encrier adulte et un pied à l'encrier junior.
D'accord.
À l'époque du CLAP Midi-Pyrénées. Depuis que j'ai repris le poste, moi ça fait faire 6 ans maintenant, on a réuni le pied à l'encrier, faire un pied à l'encrier intergénérationnel, adulte et enfant. Et j'ai des structures qui justement travaillent ensemble avec les adultes et enfants. Ils écrivent ensemble ou ils montent sur scène ensemble pour mettre en voix les textes qu'ils ont écrits lors de la fête régionale de l'écriture et de l'expression. Donc cette fête a lieu tous les ans pour clôturer l'édition du pied à l'encrier. Je sélectionne donc 10 structures qui ont écrit pour qu'elles puissent mettre en scène les textes que les apprenants ont écrits. Donc pour ce faire, je recrute une compagnie de théâtre qui va venir dans les structures pour travailler justement l'expression, comment travailler, poser la voix, respirer, comment exprimer avec son corps, etc. Donc des petits exercices. Et ensuite, donc les apprenants montent sur scène et partagent leurs textes.
Alors, ça se déroulera à quelle période, où, qui peut venir et quelle est la troupe de théâtre?
Alors cette année, donc on n'a pas encore sélectionné la troupe de théâtre qui va accompagner. Je suis en plein dedans. En tout cas, la fête aura lieu le 27 juin au Théâtre des Mazades à Toulouse. C'est ouvert au grand public parce que l'objectif aussi, c'est de sensibiliser à ces situations-là. Et pour montrer aussi, les gens qui montent sur scène, ils témoignent de leur sortie aussi de galères dans l'apprentissage. Et je monte sur scène et voilà ce que j'arrive à faire. Et ça donne envie à d'autres.
Parce que déjà d'accepter en fait le fait de ne pas savoir écrire et lire et de monter sur scène, c'est vraiment un effort énorme pour la personne qui... Et quand je disais ma question par rapport aux personnes qui participent à cet événement, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a un pourcentage, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais il y a plus de 5-6% des Français qui ne savent pas lire et écrire. Donc,
je connais bien ces chiffres. On est à 7%.
J'étais
optimiste. Oui,
2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme en France. D'illettrisme, hein, on parle des Français, hein, on ne parle pas des étrangers, hein, on parle des Français. Hein, donc, c'est encore...
En plus, aujourd'hui, le moyen de communication, les SMS, etc., ça n'arrange pas, je pense...
Ça, on le verra dans le temps. Il y a beaucoup de polémiques, hein, là-dessus, sur comment on consolide. Est-ce que ça va consolider le fait de travailler, enfin de d'écrire avec par texto, l'écriture phonétique. C'est un autre processus, mais bon. Après, ça peut être. Il faut voir dans le temps si ça va augmenter la question de l'illettrisme ou pas.
On écrit vite, on écrit beaucoup, on regarde pas. Moi, je me souviens il y a quelques années de ça. Je voulais pas prendre comme exemple. C'était notre ministre Aurélie Filippetti. Elle est agrégée, normalienne, elle avait fait un tweet, il n'y avait même pas trois lignes, et il y avait sept fautes
d'orthographe. Il faut bien distinguer les fautes d'orthographe de l'illettrisme. Hein.
Oui.
Voilà. L'illettrisme, c'est avoir, être en incapacité de pouvoir vivre correctement parce que on n'arrive pas à lire ou écrire. Hein. C'est...
Oui, c'est pour lesquels je pense cette agence est créée, enfin, c'est une priorité nationale, c'est que effectivement ça a une influence sur l'insertion dans la société des personnes et leur autonomie. Et en fait, c'est en ça, effectivement, que c'est intéressant déjà pour des associations d'intervenir le plus tôt possible, parce qu'effectivement, comme le disait Chloé, quelquefois ça peut aussi venir d'une mauvaise expérience qu'on a en classe, mais c'est pas pour autant qu'il faut renoncer à savoir lire et écrire. En fait, donc le but, c'est par d'autres moyens intéresser les publics à ça, et ensuite pouvoir dans sa vie faire ce qu'on veut, lire les étiquettes. En effet, hein, c'est vrai que c'est l'accès à la citoyenneté quelque part.
Oui.
Maintenant, vous avez un certain nombre d'années d'expérience. À vos yeux, quel type d'actions seront efficaces pour sortir de l'illettrisme ?
Grande question.
Donc là, nous sommes repartis pour une heure.
Alors, c'est un avis très très personnel, hein, mais moi, je me pose la question, plutôt de l'apprentissage vraiment au niveau du primaire. De l'école primaire. Voilà, c'est comment revoir un petit peu peut-être
Oui, il y a des écoles Montessori, d'autres structures de ce type. Malheureusement, alors il y en a qui ont déposé un brevet pour l'école, donc ça coûte cher. En plus, il faut rémunérer, et à juste titre, les enseignantes, voire les enseignants. Et donc, tout le monde ne peut pas se payer... pour ses enfants, en tous les cas, payer pour cette scolarité qui semble être... nous avions reçu dans une autre station radiophonique, d'ailleurs, une directrice d'une école Montessori. Et c'est vrai que la démarche n'est pas la même et que, a priori, dans ces écoles-là, il y a le côté de l'ouverture, de la découverte, donc d'être soi. Alors que dans un enseignement plus classique, on va dire, c'est « deviens un pion et écoute ce qu'on te dit ». Alors. Tout le monde ne part pas dans ce sens, puisqu'il y a aussi des enseignantes et des enseignants qui, malgré tout, en fonction de la manière dont elles vont agir et porter une parole, ça pourra changer la donne. Mais n'empêche que, nous ne sommes pas faits, nous sommes toutes et tous différents. Donc, il n'y a pas une manière qui doit dominer. Il y a plusieurs formes d'enseignement, et en fonction de ce que nous sommes, nous pouvons apprendre plus ou moins bien.
C'est un peu en ça aussi, on parlait de la confiance en soi, mais effectivement, certaines personnes, certainement, lorsqu'elles sont adultes et qu'elles sont en situation d'illettrisme, c'est parce que certainement elles n'ont pas osé continuer parce qu'elles ne se sentaient pas très à l'aise avec l'écrit, et du coup, moins on le pratique, plus on s'éloigne, en fait, et probablement que ça joue, le fait de se sentir jugé, de se dire où je fais des fautes, et du coup, on se replie. Donc c'est vrai que pour une partie de ces publics, ça peut jouer, effectivement.
Après, quand on se retrouve... en entreprise, c'est pareil. En fait, on essaye, et c'est là le problème, on ne peut plus cacher, parce qu'à un moment ou à un autre, on va être exposé à l'écriture.
Ça peut. Et par contre, c'est vrai qu'ils ont des stratégies de contournement extraordinaires, hein, et qui fait qu'on ne repère pas forcément, quand on parle de 7%, c'est des personnes qui ont été identifiées et accompagnées et prises en charge par des dispositifs. Mais il y en a beaucoup qui sont encore dans l'ombre. Hein. Et juste pour rappeler que 50% des personnes en situation d'illettrisme travaillent. Donc voilà, comment on le voit, comment on l'accompagne aussi dans les entreprises, c'est quelque chose qu'on aimerait développer aussi dans le service, parce que c'est une question très importante.
C'est vrai que ce sont du coup des publics plus, qui peuvent être plus touchés quand il y a des difficultés économiques dans leur entreprise. Par exemple, s'il faut reclasser des personnes, comme elles ont développé des stratégies dans leur poste, bon, elles ont pu effectivement s'adapter. Cependant, s'il faut qu'elles changent un tout petit peu leur manière de fonctionner, ben, c'est là où on va s'apercevoir qu'en effet, il y a des limites. Et du coup, voilà, c'est pas facile pour elles de rebondir dans d'autres emplois, enfin, peu importe, même chez d'autres employeurs. Et c'est là, en soi, ou quand l'économie marche bien, ça se voit pas forcément, mais quand il y a un repli, c'est plutôt ce public qui en fait les frais en premier lieu.
Et alors là, nous allons pas développer, hein, parce que sinon nous y sommes effectivement pour une heure, parce que l'économie, l'écologie, la croissance, on lui fait dire tout ce qu'on voudra, mais quand dans le PIB, produit intérieur brut, on y met notamment toutes les dépenses de la santé en fait de la maladie, c'est-à-dire plus vous souffrirez de cancer, plus le PIB montera. Je veux dire, voilà, il y a tout ça aussi à mettre en cause. Et je veux dire, le bonheur intérieur brut, c'est peut-être autre chose aussi.
Comme au bout de temps, oui.
Et ça, c'est important. Alors, parce que je l'avais dit, mais il y a peut-être, comment fait-on, puisque là, il nous reste grosso modo 2-3 minutes, comment fait-on pour éventuellement contacter l'Union Cépierre, Robert Monnier, ou voilà, toutes ces structures pour aider, pour participer, pour écouter, pour entendre, pour voir et pour...
Alors, on a un site internet, l'Union Cépierre Robert Monnier. Vous allez avoir justement toute la présentation de l'association et des services que l'on a. Pour le pied à l'encrier, c'est me contacter directement sur mon mail, c.maurage@ucrm.fr. Comme ça, vous pourrez recevoir, si vous le souhaitez, l'invitation pour la fête régionale de l'écriture et de l'expression le 27 juin. Et je... Voilà.
Bah, tu reviendras.
Avec plaisir.
pour en parler. Et donc, comme ça, nous aurons peut-être la troupe de théâtre. Et peut-être que tu pourras, mais je te recontacterai à ce moment-là, peut-être aussi des personnes qui monteront sur scène. Peut-être, pourquoi pas, venir dire, s'entraîner un peu au micro de... d'Esprit Occitanie. Nous ferons la fête. Nous ouvrirons des micros partout. Nous avons un micro-baladeur en plus. Donc
ça... Parfait. Je pense que ça pourrait se faire tout à fait, oui.
Ça va très bien. Nous mettrons dans l'ambiance. Et après, après tout... Pourquoi pas avec Lise Martin ou Marianne Colombier en plus. Ça mettra de l'ambiance en chanson et tout. Théâtre, donc nous ferons toute une journée finalement.
On va trouver toujours une bonne méthode pour apprendre correctement la langue de Shakespeare. Bon, voilà. Merci Chloé et Sonia.
Merci à vous.
Merci d'être venu donc dans l'émission. Et si demain l'illettrisme n'était plus qu'un vague souvenir, ce serait pas mal. Et si demain... le budget de l'armée partait sur le budget de la culture, de l'éducation, de l'écologie. Peut-être que ça irait mieux. Hein.
Sûrement.
Merci à tous les cas d'être venus jusqu'à nous. Merci Jean-Louis Zac-Fraisse pour la réalisation. Je salue au passage Adrien Massé, créateur de mode, qui est là dans le studio. Et nous vous disons à très vite. Donc, et si demain, l'indicatif est signé de Damien Moreto. Bye bye, et je vous donne rendez-vous dès vendredi matin dans l'émission Traversée entre 10h et midi. Et rediff de cette émission, je ne sais plus, je l'ai calé pour demain matin. Bye bye, à plus.